Bonjour, ici Marc, bienvenue au 75e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin and Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Les effets du mythe sur les victimes, ils creusent leur propre tombe. Malheureusement, la croyance en l'autorité pousse les gens à se sentir obligés d'assister à leur propre asservissement, à leur oppression et même parfois à leur mort. En fait, seul un faible pourcentage de la coercition exercée par le gouvernement est mise en œuvre par les personnes chargées de faire respecter l'autorité. La plus grande partie est mise en œuvre par ses victimes. La classe dirigeante se contente de dire aux gens qu'ils sont tenus de faire certaines choses et la plupart d'entre eux s'y conforment sans qu'aucune mesure coercitive ne soit prise. Pour ne citer qu'un exemple impressionnant, des dizaines de millions d'Américains remplissent chaque année des formulaires longs et déroutants appelés « déclarations d'impôts », s'extorquant ainsi eux-mêmes. Si les victimes de l'administration fiscale acceptaient de payer seulement si le gouvernement parvenait à déterminer leurs prétendues obligations fiscales, le système s'effondrerait. Chaque déclaration d'impôt est en fait un aveu signé, la victime de l'extorsion révélant non seulement tout ce qui concerne ses finances, ce qui revient à se faire subir à soi-même un interrogatoire, mais allant jusqu'à calculer le montant qui lui sera volé afin que les voleurs n'aient pas à le faire. Mais tous les inconvénients improductifs et désagréables et les tracas bureaucratiques auxquels les gens se soumettent, simplement parce qu'on leur a dit que la loi l'exigeait, ne sont rien comparés aux symptômes plus graves de la croyance en l'autorité. Sur la base de la mythologie du devoir envers la patrie et des lois imposant la conscription militaire, le service militaire, des millions de personnes à travers l'histoire sont devenus des meurtriers pour le compte de l'État. Seule une petite fraction a résisté et elle a généralement été méprisée par ses compatriotes qui l'ont accusée de lâcheté ou de manque de patriotisme. Dans le cas de nombreuses lois, il peut être difficile de faire la distinction entre les personnes qui obéissent par simple crainte d'être punies et celles qui obéissent par sentiment d'obligation morale, croyant devoir se plier aux ordres des hommes politiques, les lois. Dans le cas de la conscription militaire, en revanche, il est facile de faire la différence, car la conformité est généralement bien plus dangereuse que les sanctions dont le gouvernement menace ceux qui refusent de s'y plier. Si le choix est de se conformer et de risquer une mort atroce sur un champ de bataille à l'autre bout du monde, ou de désobéir et d'aller éventuellement en prison, il est peu probable que la menace à elle seule soit la raison pour laquelle tant de personnes s'inscrivent et se présentent pour le service militaire lorsqu'elles sont appelées. Il est clair que le niveau de conformité avec l'appel sous les drapeaux, du moins dans le passé, montre que la plupart des gens préféreraient commettre un meurtre ou mourir plutôt que de désobéir à l'autorité. Il n'y a pas de meilleure indication de la puissance de la superstition de l'autorité. Des milliers et des milliers d'êtres humains, par ailleurs civilisés et pacifiques, quittent leur foyer et vont parfois à l'autre bout du monde pour tuer ou mourir simplement parce que leurs classes dirigeantes respectives leur ont dit de le faire. Chaque soldat est à la fois un exécutant et une victime de la superstition de l'autorité, qu'il se soit porté volontaire ou qu'il ait été enrôlé. Se battre pour défendre des innocents contre des agresseurs est une noble cause et c'est souvent l'intention de ceux qui s'engagent dans l'armée. Mais dans un régime militaire hiérarchique, le soldat devient un outil de la machine plutôt qu'un individu responsable. Au lieu d'être guidé par sa propre conscience, il est entièrement contrôlé par les ordres qu'il reçoit de la hiérarchie. Et chaque fois que son obéissance le conduit à faire quelque chose d'immoral, ce qui arrive assez souvent, il ne nuit pas seulement à ses victimes, mais aussi à lui-même. Après la guerre du Vietnam, par exemple, de nombreux soldats américains sont rentrés chez eux, le corps intact, mais avec de profonds problèmes psychologiques. Il est difficile de dire dans quelle mesure les dommages mentaux résultaient du fait d'avoir été témoin d'un carnage et dans quelle mesure ils résultaient du fait d'avoir personnellement créé un carnage. Une peur prolongée d'une mort imminente peut, bien entendu, provoquer de graves problèmes psychologiques, mais également le fait d'infliger la mort à autrui. Les confrontations violentes peuvent être très stressantes, même lorsque l'individu se sent entièrement justifié, par exemple lorsqu'il défend sa famille contre un agresseur. Mais s'engager dans un combat mortel où personne, y compris les combattants, ne semble avoir une idée claire de l'objectif ou de la justification du conflit, comme ce fut le cas au Vietnam, semble ajouter un degré supplémentaire de traumatisme psychologique. Comme l'ont attesté de nombreux soldats, une fois dans l'enfer de la guerre, toute cause ou justification vague mais noble du combat est généralement oubliée, et tout ce qui reste est le désir de rester en vie et d'aider ses amis à rester en vie. Deux choses qui sont bien mieux servies en rentrant chez soi ou dès le départ en évitant de s'engager dans l'armée. Et pourtant, le nombre de personnes qui quittent l'armée et rentrent chez elles est très faible, pour une raison simple, parce que cela constituerait un acte de désobéissance à une autorité perçue comme telle. Et le soldat ordinaire, même s'il a le courage et la force de se jeter dans un combat mortel, n'a pas le courage et la force de désobéir à une autorité perçue. Comme dans de nombreux cas de coercition autoritaire, les victimes de la conscription militaire sont presque toujours beaucoup plus nombreuses que ceux qui tentent de la mettre en œuvre. Même lorsque les personnes sont légalement sommées de sacrifier leur esprit et leur corps dans le cadre de guerres entre tyrans, la simple désobéissance passive d'une partie significative des « appelés » entraînerait l'arrêt de la machine de guerre. Quelle punition y a-t-il à craindre qui soit pire que le résultat de l'obéissance? Les résultats habituels de la guerre sont la terreur prolongée, la douleur et la souffrance physique et mentale, le démembrement ou la mort. Néanmoins, même après avoir été directement témoin des horreurs de la guerre, très peu de gens arrivent à se résoudre à désobéir à l'autorité, à retirer leur uniforme et à s'en aller. Le fait que les atrocités commises par les nazis à l'encontre des juifs allemands aient souvent été réalisées avec la coopération et l'assistance de la police juive, comme ce fut le cas dans le ghetto de Varsovie, témoigne du pouvoir de la croyance en l'autorité. Dans leur culture, comme dans presque toutes les autres cultures, les gens avaient été tellement convaincus que l'obéissance est une vertu que, même si quelqu'un de nouveau était au pouvoir, ils se sentaient obligés de faire ce qu'on leur disait, même si cela signifiait opprimer violemment leurs propres concitoyens. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant, mais indiscutable, c'est le fait que plusieurs millions de personnes dans l'histoire ont participé à leur propre extermination parce que l'autorité leur avait dit de le faire. Par exemple, pendant l'Holocauste, des centaines de milliers de Juifs sont montés de leur propre chef dans les wagons à bestiaux des trains qui allaient les emmener à la mort, sans essayer de se cacher, de s'enfuir ou de résister. Pourquoi? Parce que ceux qui prétendaient être l'autorité leur ont dit de le faire. S'il est vrai qu'ils ne savaient pas tous exactement ce qui les attendait à l'autre bout, ils se sont tout de même remis à la garde d'une machine qui, de toute évidence, leur voulait du mal. Le fait de se conformer et d'obéir procure un certain sentiment de confort et de sécurité. Croire que les choses sont entre les mains de quelqu'un d'autre et avoir confiance dans le fait que quelqu'un d'autre va arranger les choses est une façon d'éviter la responsabilité. L'endoctrinement autoritaire insiste sur l'idée que, quoi qu'il arrive, si vous faites simplement ce qu'on vous dit et ce que tout le monde fait, tout ira bien et les responsables vous récompenseront et vous protégeront. Le nombre de victimes d'une atrocité gouvernementale après l'autre montre à quel point cette croyance est erronée. Si les victimes de l'oppression et du meurtre légal avaient simplement refusé leur aide, même si elles n'avaient pas levé le petit doigt pour résister par la force, le monde serait bien différent aujourd'hui. Si les nazis avaient dû transporter physiquement chaque personne, morte ou vivante, vers les camps de concentration, le nombre de meurtres aurait été bien moindre. Si chaque esclave vendu en servitude avait refusé de travailler, le commerce d'esclaves n'aurait pas duré longtemps. Si le fisc devait calculer l'impôt dû et le prélever directement sur chaque contribuable, il n'y aurait plus d'impôt fédéral. En résumé, si les victimes de l'extorsion, du harcèlement, de la surveillance, de l'agression, de l'enlèvement et du meurtre autoritaire cessaient simplement de participer à leur propre oppression, la tyrannie s'effondrerait. Et si le peuple allait plus loin et résistait par la force, la tyrannie s'effondrerait encore plus rapidement. Mais la résistance, qu'elle soit passive ou violente, exige que le peuple désobéisse à une autorité perçue, ce que la plupart des gens sont psychologiquement incapables de faire. En fin de compte, c'est la croyance en l'autorité parmi les victimes de l'oppression, plus encore que les croyances de la classe dirigeante et de ses exécutants, qui permet à la tyrannie et à l'inhumanité de l'homme envers l'homme de se perpétuer à une si grande échelle. Les effets sur les criminels réels. Paradoxalement, dans les situations où l'obéissance améliorerait réellement le comportement humain, l'autorité n'a aucun effet. Les individus, par exemple, dont la conscience ne les empêche pas de voler ou d'agresser leurs voisins, parce qu'ils ne se soucient pas des normes habituelles du bien et du mal, ne se soucient pas non plus de ce que l'autorité leur dit de faire. Seuls ceux qui essaient d'être bons se sentent obligés d'obéir à l'autorité. La croyance en l'autorité est une croyance morale. C'est l'idée que l'obéissance est moralement bonne. Pour ceux qui ne se soucient pas de ce qui est considéré comme bon, ceux-là même dont la conscience ne suffit pas à les faire se comporter de manière civilisée, le mythe de l'autorité n'a aucun effet. En d'autres termes, seuls ceux qui n'ont pas besoin d'être contrôlés, c'est-à-dire ceux qui essaient déjà de mener une vie morale, se sentent obligés d'obéir aux tyrans. Quant à ceux qui représentent une menace réelle pour la société pacifique, ils ne ressentent aucune obligation morale d'obéir à une quelconque autorité. D'une manière générale, tous les ordres émanant d'une autorité, y compris les ordres intrinsèquement justifiables tels que « ne pas voler » et « ne pas tuer », sont toujours soit inutiles lorsqu'ils s'adressent à de bonnes personnes, soit inefficaces lorsqu'ils s'adressent à de mauvaises personnes. Il est difficile d'imaginer une situation dans laquelle un individu n'aurait aucun scrupule à commettre un vol, une agression ou un meurtre, mais se sentirait coupable d'aller à l'encontre des lois qui interdisent de tels actes. Il convient de distinguer ici l'obligation morale de la peur des représailles. Un voleur qui ne ressent aucune obligation morale de s'abstenir de voler ne ressentira pas non plus d'obligation morale d'obéir aux lois contre le vol. Toutefois, s'il perçoit une menace pour sa propre sécurité, que ce soit de la part de la police ou de toute autre personne, il pourrait être dissuadé de voler quelqu'un. Mais cet effet dissuasif provient entièrement de la menace de violence et non de la prétendue autorité qui sous-tend la menace. Cela signifie que l'autorité supposée n'est jamais ce qui empêche les crimes réels de se produire et qu'un système de dissuasion efficace ne nécessite pas d'autorité du tout. Ce point est abordé plus en détail ci-dessous. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse, le péché de non-résistance ».